Yvonne Godeau, Les Contes du Manoir Rose ou Le Framboisier, chapitre 10, L'homme qui avait perdu son cœur. Cet après-midi-là, grand-mère et moi étions allongés sur des transats, face à la mare, sous un tilleul. La journée était ensoleillée et chaude. Nous regardions, paupières mi-closes, vivre l'été. Seul le plaisir de nous sentir exister nous occupait. Soudain, Jannick, Néron et le jeune Féfé sortirent en trombe du bureau de grand-père et nous tirèrent de notre état de bien-être. Ils aboyaient comme des fous furieux. Grand-père surgit à son tour. « Que se passe-t-il ? » « Je ne sais pas, » répondit grand-mère. « Il semblerait qu'une femme arrive au bout de l'allée. » Nous étions tous les trois surpris. Le manoir est très isolé. Personne n'y vient qu'en voiture. La femme marchait avec lenteur. Sans aucune frayeur, elle se laissa approcher par les chiens. Elle leur parla. Ils se turent, puis la suivirent avec docilité. « C'est curieux, » dit grand-père. « Elle a vite fait de les apprivoiser. » Peu à peu, approchant dans la longue allée, se précisait la silhouette de la visiteuse. Elle était mince, grande et simplement vêtue de noir. Bien qu'elle se tînt très droite, elle semblait en proie à une lourde fatigue. Grand-mère et moi, nous nous levâmes et grand-père partit à sa rencontre pour l'accueillir. Quand ils furent arrivés près de nous, toujours suivis par les chiens, grand-mère tendit sa main à la visiteuse et lui dit « Soyez la bienvenue chez nous. Quel hasard nous vaut le plaisir de votre visite ?»«
Je suis très lasse. »
On la fit asseoir. Pendant que Zizine apportait des rafraîchissements, j'observais l'inconnue. Son visage était long et pâle. Deux grands yeux bleus l'éclairaient avec candeur. Elle avait un charmant sourire. Elle était d'un âge avancé et si menue, si peu vêtue de chair, qu'elle semblait un fantôme de femme. On s'étonnait de voir tant de détermination et d'énergie au fond de son regard. « Laissez-moi me reprendre, » dit-elle. « Je vous parlerai, car je suis là pour cela. » Son arrivée inopinée, le naturel avec lequel elle nous demandait de la laisser en repos, la simplicité des rapports qui s'établissaient d'emblée avec elle comme si nous nous connaissions de longue date, tout me sembla insolite. Personne ne parla plus. Les chiens s'allongèrent, attentifs, le museau sur les pattes, l'œil tendu vers la visiteuse, et pendant que dans les verres descendait l'orangeade, l'après-midi reprit son paisible cours. La vieille dame rompit enfin le silence. « Je cherche le cœur de mon fils. Mon fils a perdu son cœur. Je ne sais comment cela s'est fait. C'était un bon enfant. Il est toujours d'ailleurs un très bon fils. Au long des années, rien de particulier ne m'est apparu. C'est un homme puissant et célèbre. Il est riche et respecté. Sa maison est opulente. Il vit au milieu des œuvres d'art qu'il a accumulées. Pourtant, à part moi, il ne voit personne. Il n'est ni triste ni gai. Je ne lui connais aucun ami, aucune liaison. Je sais qu'il a perdu son cœur. « Comment en êtes-vous si sûre ?» dit grand-mère, « puisque vous prétendez qu'il est un bon fils. » « Il est beaucoup plus grand que moi. Quand je m'appuie contre lui pour l'embrasser, ma tête est à la hauteur de sa poitrine. J'entends là tout, sauf un cœur. Parfois, c'est de l'or qui teinte ou des billets qu'on froisse. Parfois, ce sont des idées qui tourbillonnent et s'amusent. Parfois, des soucis qui se heurtent. Parfois, c'est l'indifférence qui se tait, l'inimitié qui bourdonne, ou le désir qui crie, ou tant, tant de mouvements encore, mais jamais, jamais un cœur qui aime et bat. » Nous étions stupéfaits. Je dis craintivement, « Vous pensez retrouver ce cœur ?»« J'ai eu un rêve, » répondit-elle. « C'était une vision emplie de soleil, comme un grand être sans limite, libéré des formes terrestres qui me parlait. Sa voix était très distincte, et de sonorité si claire que je l'entends encore avec une netteté parfaite. « Prends la route, » disait la lumière, « marche jusqu'au bout de tes forces. Quand tu auras l'impression d'être au seuil de la mort, entre dans la première maison venue. Tu rencontreras un oiseau, et cet oiseau redonnera un cœur à ton fils. » 3 fois j'ai eu ce message. La première fois c'était à l'automne, j'étais alitée et souffrante. La seconde fois c'était l'hiver, la neige couvrait toute la région. La 3e fois, ce fut à la naissance du printemps. Je suis alors partie à pied et sans bagage. J'ai vu de nombreux pays. Souvent, j'ai eu l'impression d'être au seuil de la mort. Chaque fois, je suis entrée dans un jardin. Partout, l'accueil a été secourable, mais je n'ai nulle part rencontré l'oiseau qui doit redonner un cœur à mon fils. je compris l'expression de détermination tranquille qui animait ses yeux bleus. Personne n'osait ouvrir la bouche. Pourtant, grand-mère finit par murmurer « Vous resterez ici aussi longtemps qu'il vous plaira. Vous reprendrez des forces et repartirez à votre recherche. » Nous pensions que la visiteuse n'avait peut-être plus toute sa raison. « Je sais que je trouverai cet oiseau, dit-elle. Simplement, il me faut garder le silence pour ne pas l'effaroucher, très peu bouger hors de mes heures de marche, et être très attentive. » Elle nous faisait poliment comprendre qu'elle souhaitait que nous nous taisions. Grand-père s'éclipsa, suivi des chiens. Grand-mère et moi reprîmes notre contemplation des arbres, de l'eau et du ciel. La vieille dame, maintenant allongée comme nous, semblait dormir. Je pensais « Pourvu qu'elle ne meure pas ici, à peu de course, elle est si frêle !» Mais sa poitrine se soulevait sur une respiration régulière. Je constatais que si ses paupières restaient mi-closes, ses yeux bleus derrière leurs petits écrans veillaient. L'heure du dîner approchait. Le soleil avait tourné dans le ciel et éclairait maintenant la façade de la maison qui regarde la plaine. Les oiseaux commençaient à mettre leur exubérance en sourdine. Je me dis « Voici venue l'heure des dieux !» Du tilleul, on entendit s'envoler la colombe. À notre surprise, elle se posa sur la table, au milieu des verres vides. Toutes les trois, nous la regardâmes avec intensité. « Je suis l'oiseau de Vénus, dit la colombe, l'oiseau de la paix, de la concorde et de l'amour. Je suis née pour rendre le cœur de ton fils. Qui mieux que moi pourrait le faire ?» La vieille dame joignit les mains, sourit, et des larmes inondèrent son sourire. « Je repars avec toi, dit l'oiseau, à la seule condition que tu me ramènes ici quand j'aurai accompli ma tâche. « Je te ramènerai, dit la mère. » Grand-mère et moi étions ahuris. Tout s'était passé avec un naturel troublant. L'oiseau était descendu de l'arbre, il avait parlé. La visiteuse et nous-mêmes avions entendu et compris. Un dialogue s'était engagé, court mais précis et évident, et ce surnaturel était la vérité même, la vie même. Grand-mère prit le parti de ne pas s'étonner. Elle se leva, marcha vers le bureau où était grand-père et lui dit « Va chercher la cage d'osier dans laquelle tu recueilles les oiseaux blessés. J'en ai besoin. »« Pourquoi ? Tu as découvert un éventuel pensionnaire ? Non, je t'expliquerai plus tard. » Ce fut Zizine qui apporta la cage. Elle vit la colombe posée. « Ah ! Dit-elle, la voilà apprivoisée, madame ?» Grand-mère ouvrit la porte d'osier. La colombe entra dans la cage. Ce fut la fin du premier acte surprenant de cette quête à travers le monde pour sauver l'homme qui avait perdu son cœur. Une chambre fut préparée. La visiteuse y passa la nuit. Je ne sais ce que grand-mère raconta à grand-père, mais le lendemain matin, celui-ci prit sa voiture et conduisit la vieille dame et la colombe à la gare la plus proche. Quand, la cage à la main, la femme arriva chez son fils, celui-ci l'accueillit avec beaucoup d'égard et lui dit « Vous rapportez une colombe de vos voyages ? Reposez-vous, vous avez été longtemps absente, vous devez en avoir besoin. » « À mon âge, mon fils, on n'a plus besoin de repos, on a besoin d'amour. » Elle alla pourtant se reposer. L'oiseau, seul maintenant, regardait la demeure. Tout y était luxe, argent et or. « Cet homme s'est attaché aux formes, à la richesse, se disait la colombe. L'abstraction est son domaine, ainsi que la technique et la théorie. Tout est beau ici, mais glacé. Je suis heureuse de lui offrir mon cœur. » La nuit vint, on éclaira partout. Aucune ombre nulle part pour reposer l'esprit, tout brillait, tout se découvrait dans la lumière. « Il aura besoin de plus de mystère quand il aura retrouvé son cœur, » pensa l'oiseau. Puis tout s'éteignit soudain. La maison baigna dans la nuit complète et le silence. La colombe se glissa jusqu'à la chambre où l'homme était couché. Près de lui étaient rangés soigneusement ses désirs, ses souvenirs, ses idées, sa fortune. Lui dormait d'un sommeil sans rêve. À petits coups de bec appliqués, réguliers, l'oiseau ouvrit sa gorge ronde et délicatement, il en sortit son cœur. Il le posa sur le torse de l'homme. « Mon cœur est très petit, pensa-t-il, mais c'est un cœur immensément rempli qui peut lui rendre de grands services. » Il commença avec son bec à attaquer la poitrine du dormeur. « C'est curieux, pensa-t-il, il y a là une vilaine cicatrice. Quelqu'un a déjà fait ce travail bien longtemps avant moi. » Il entendit grincer au ras du parquet. Il tourna la tête et vit un être minuscule avec une énorme mâchoire qui faisait un méchant bruit. « Je suis l'amour déçu, » dit le gnome. « Je suis tordu, souffrant, noir et affreusement laid. Pourquoi détruis-tu ma besogne ?» Laisse-moi travailler, dit l'oiseau. Tu fais partie de ceux qui ne comprennent rien à rien. Je ne perdrai pas mon temps à t'expliquer les choses. » Le gnome trépigna et s'enfonça dans le plancher pendant que l'oiseau reprenait son travail. « C'est bien ce que je pensais, se disait-il. C'est l'amour déçu qui a fait des ravages. » Toute la nuit, il œuvra. Il accomplit ce qu'il avait à faire. Puis il se traîna jusqu'à sa cage, s'y blottit et attendit le lever du jour. À son réveil, l'homme s'étonna de ne pouvoir remettre en ordre à leur place ordinaire ses idées, ses souvenirs, ses désirs et sa fortune. « Tout se passe bizarrement ce matin, » pensa-t-il, et il s'assit sur le bord du lit. Il sentit couler sur ses joues quelque chose d'humide, de chaud et de visqueux. Il y porta ses doigts et fut effrayé de voir que ceux-ci étaient rouges de sang. « Du sang !» dit-il. « Du sang !» Il eut la sensation très nette que ce sang sortait de ses yeux. Il eut un pincement inattendu près du bras gauche. Il appuya sa main sur l'endroit douloureux et sentit battre sous sa paume quelque chose de tout à fait inconnu. Il essuya ses yeux. Le sang coula toujours. Dans la poitrine de l'homme, le cœur de l'oiseau saignait. « J'ai peur. Puisse mon sacrifice avoir été utile ?» se dit le cœur. Mais il constatait que son rythme était régulier, excellent même. Se sentant grandir, ce n'est plus du sang qu'il versa, mais de douces larmes de joie. Sur les joues de l'homme pendant ce temps, le sang pâlissait peu à peu, et bientôt, deux petites rivières d'eau le remplacèrent. L'homme se mit sur ses pieds, prit d'une vaste respiration et pensa « Je me sens bien !» Il s'étonna. « Est-ce cela le bonheur ?» C'était pour lui une idée nouvelle. Il l'arrangea avec les autres sur sa table de chevet. Il regarda tous ses trésors posés et pensa « Je reviendrai tout à l'heure ramasser cela bien en ordre. » Puis il s'en fut prendre son petit déjeuner. Sa mère était déjà assise à table. Elle regardait l'oiseau blotti dans la cage. « Bonjour, mère !» dit l'homme gaiement. Elle se leva, s'appuya contre lui, et pour la première fois depuis sa petite enfance, il referma les bras sur elle. La vieille dame entendit battre, battre, battre enfin son cœur. « Tout va bien, dit-elle. Je suis heureuse. Je pourrais maintenant mourir sans tourment. » Ce fut la fin du second acte de cette étrange histoire. Quelques jours plus tard, la femme revint au framboisier, avec la cage d'osier. Dans celle-ci, la colombe, immobile. Son fils lui-même les déposa en voiture, puis repartit, ne cherchant à rien savoir. Simplement, il était joyeux. Il chantait et riait sans cesse. Il avait l'impression qu'une vie nouvelle s'ouvrait à lui. Quand il riait, quelque chose qui ressemblait à un roucoulement roulait dans sa gorge. La colombe et la mère l'écoutaient rire. Quand la voiture fut repartie et qu'elles furent sous le tilleul, la colombe dit « Rends la cage à grand-mère et pose-moi ici. Génie des bois prendra soin de mon sort. » La femme fit selon la volonté de l'oiseau. Nous revîmes avec joie la vieille dame. Elle nous fit part de son bonheur. La soirée fut chaude de tendresse. Quand Génie des bois se trouva devant elle, la colombe était toujours sous le tilleul. Elle frissonnait et pensait bien qu'elle ne survivrait pas. « Je n'ai plus mon cœur, dit-elle. Je suis privée de tout et la vie m'abandonne. » Génie des bois rit bruyamment et une allégresse étonnante circula dans l'air, faisant frémir les feuilles et l'herbe. « L'oiseau de Vénus a un cœur innombrable, dit le génie en riant toujours. Quand tu auras donné ton cœur des milliers, des millions, des milliards de fois, tu pourrais le distribuer plus encore à la ronde. Sois heureuse, colombe, et envole-toi. » La colombe, sans savoir comment, se retrouva au sommet du tilleul. Gonflant sa gorge ronde, elle roucoula. « Je peux donner mon cœur des milliers, des millions, des milliards de fois, et plus encore aux pauvres humains qui en sont dépourvus. » Elle était follement heureuse. La vieille mère, dans sa chambre, s'apprêtant à dormir, vit aussi soudain devant elle Génie des bois. « Te voilà, grand être de lumière, » dit-elle. « J'ai bien retenu ton message, j'ai fait comme tu m'avais dit. Viens-tu me chercher maintenant ?» Génie des bois rit encore, et tout dans la chambre sembla animé de plaisir. Le petit lustre de cristal au plafond, les pompons des rideaux, les grelots du pantin posés sur un fauteuil. Tout se moquait gaiement de cette inutile tristesse de la visiteuse. « Je viens en effet te chercher, dit Génie des bois, mais pour te renvoyer à ta vie. Ton fils va rencontrer une femme. Elle est belle, jeune, charmante, et ils vont s'aimer très fort. Ils auront de très beaux enfants. Rentre chez lui et fais-toi belle. » Plus de robe noire. Demain dans l'armoire, tu auras ce qu'il te convient de porter désormais. » Le lendemain, quand la visiteuse descendit pour le petit déjeuner, quelle surprise ! Elle était vêtue d'une robe gris-perle. Autour de son cou s'enroulait une longue mousseline bleue, du bleu de ses yeux. « Votre fils vous trouvera superbe !» dit grand-mère étonnée. « Quelle transformation s'est opérée en vous ?»«
Vous habitez une belle et bonne maison, » répondit la femme. « C'est un endroit protégé et béni, puissiez-vous le savoir ?»
Quand grand-père prit la voiture pour reconduire au train la vieille dame, la colombe volait auprès de la portière. Grand-mère, Zizine et moi agitions nos bras en signe de revoir, car nous savions qu'elle reviendrait. Ainsi s'acheva le troisième acte de cette étonnante histoire.